Bonjour Annabelle.
Bonjour. Ça
alors,
va
très bien et vous?
Oui, ça va. Je suis toujours en pleine attente d'accoucher pour le moment, mais j'ai encore plein de questions et notamment en fait le stress que peut ressentir un bébé après l'accouchement en fait, parce que potentiellement il peut se passer l'accouchement peut pas se passer peut-être comme je l'avais envisagé, c'est-à-dire par voie basse. Et est-ce que lui va ressentir un stress par rapport à ça?
Alors, c'est vrai que un bébé dans le ventre de sa maman ressent beaucoup de choses, a des émotions, ressent du stress. Le cortisol, c'est quelque chose qu'il sécrète lui-même. Il y a le cortisol de la maman, et c'est la raison pour laquelle il y a cette notion d'espace péripersonnel qui s'installe deuxième et troisième trimestre, où finalement, naturellement, les mamans coupent un peu. Il y a une espèce de distance par rapport aux événements autour d'elles. Il y a une espèce de protection naturelle qui se fait. Elles sont moins atteintes par des stress environnants. Bien entendu, c'est très maman dépendant. Chacun a sa construction. Il peut aussi y avoir, et on l'a vu avec la Covid, où il y a eu, surtout au début, où c'était extrêmement compliqué parce qu'on avait peur que les femmes enceintes attrapent la Covid, donc ça générait un stress épouvantable, et j'en passe et des pires. Donc c'est normal, ça peut exister. C'est réversible, le bébé peut ressentir des choses, et c'est vrai qu'il faut tout faire pour que, c'est facile à dire bien sûr, mais tout faire pour préserver son bébé et ne pas rajouter trop de stress. Ne pas aller sur Internet, ne pas aller trop se questionner, se dire « oh là là, ça va, si ça se passe mal, comment ça va se passer ?» Être naturel, protéger son enfant, et puis chaque jour apportera son lot de nouveautés qu'on va apprendre à découvrir et à... Alors, vous disiez, effectivement, un accouchement, enfin, une grossesse peut être parfaitement normale, jusqu'à la salle de travail, tout se passe bien, et puis tout d'un coup, ça se passe pas aussi bien qu'on pensait. Il peut y avoir, par exemple, la progression du bébé qui se ralentit un peu, il a du mal à sortir, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler là.
Oui, bien sûr.
Mais alors, il peut être décidé par l'obstétricien ou la sage-femme d'utiliser une ventouse pour aider le bébé à sortir. On va coller une ventouse qu'on va mettre au fond du vagin et on va aller chercher la tête de bébé et on va la mettre avec aspiration sur son crâne. On peut utiliser des spatules, des forceps. Et puis, dans certains cas, parce que peut-être le cœur de bébé se ralentit, bon, je ne vais pas vous stresser, là, ce n'est pas l'objectif.
Non, mais ça va, ça me stresse pas.
Voilà, mais c'est une césarienne, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des choses comme ça arrivent, ça génère forcément du stress parce que on ne s'y attendait pas. Et au fond, les choses ne se déroulent pas comme on le pensait. Ça correspond pas au projet de naissance qu'on avait rédigé. On est un peu perdu. Le compagnon, la compagne qui est là, se sent inutile pour peu qu'il y a cet accouchement médicalisé, comme on dit. Et du coup, ça peut avoir un impact sur le bébé. D'une part, par le stress généré, c'est normal, mais après, on va le couver, une fois que le bébé sera là et que tout ira bien, on va le rassurer, on va apprendre aussi à quitter cette charge émotionnelle. Il y a tout un travail à faire derrière. Dans certains cas, c'est bien éventuellement d'être accompagné, si ça a été vraiment du lourd, qu'il y a dû y avoir une anesthésie générale ou que sais-je, que bébé a été mis en surveillance pendant 12 heures en néonatologie ou quelque chose de ce genre-là. Ça génère du stress, même si bébé va bien. Et ce stress, on a du mal à l'intégrer au début et ça peut ressortir dans les semaines et les mois qui suivent.
D'accord.
Et ça peut se traduire chez le bébé par des tensions. Par exemple, s'il y a une ventouse, il peut avoir un torticolis. Il peut avoir une petite raideur de la nuque, il peut avoir du mal à tourner la tête d'un côté plutôt que de l'autre. Du coup, ça peut avoir un impact sur le positionnement pour l'allaitement. Du coup, ça va donner des crevasses. Oui, il y a plein de choses comme
ça. Et après, ça réenclenche.
Ouais. Ça réenclenche du stress. J'ai pas assez de lait, je suis pas une bonne mère, je voulais donner le sein, j'y arrive pas. Alors que non, pas du tout. C'est juste une question de positionnement du bébé qui a peut-être un petit torticolis, qui a peut-être une raideur de la nuque à cause de l'accouchement, du stress aussi, la fatigue aussi qui joue. Et qui tous ces éléments font que, on veut faire bien, mais ça marche pas forcément. Alors là, bien sûr, on est accompagné, il y a la sage-femme, on est peut-être déjà rentré à la maison, la sage-femme sera là, il y aura la consultation avec le pédiatre aussi, il y a des conseillères en allaitement aussi qui sont là si on veut allaiter et que les choses se passent pas comme il faut. Pareil, si c'est un biberon, et le bébé, on sent qu'il a faim, il prend le biberon, puis il rejette tout de suite la tête en arrière. Mmh. Peut-être qu'il rejette la tête en arrière parce que ça lui fait mal. Peut-être que la tétine n'est pas adaptée pour lui. Peut-être que la température du lait ne lui convient pas. Vous savez qu'un bébé vit par les sens. Mmh. Et les sens d'un bébé, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il faut respecter. C'est grâce à ça qu'il communique avec sa maman, avec son papa. Le peau à peau, l'odorat qui est très développé, le goût qui est très développé, l'audition qui est encore plus développé que chez un adulte. Donc tout, la vision, ça viendra après. Tout ça fait que il a ses préférences et il peut préférer tel lait plutôt qu'un autre.
Oui, c'est ça.
Il va faire la différence entre le lait de sa maman et le lait infantile, par exemple. Bien sûr, ouais. Il y a des tas d'expériences qui ont été faites là-dessus, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, pour peu qu'il ait eu effectivement une ventouse ou un forceps et qu'il a la tête un petit peu tournée plus d'un côté que de l'autre, ce qui peut favoriser les fameuses plagiocéphalie, c'est-à-dire le crâne plat, ça on pourra en parler, eh bien il faut trouver la bonne position pour trouver, pour qu'il soit bien à l'aise, bien au confort, pour prendre le biberon ou pour prendre le sein. Mais encore une fois, j'en parle parce que là vous me posez la question, mais allez, on va dire, ne vous posez pas la question, j'en parle parce que c'est un podcast, mais vous qui allez bientôt accoucher, tout va bien se passer. C'est, en fait, il faut être détendu et si quelque chose arrive de ce genre-là, il faut savoir faire une espèce de reset tout de suite après. Alors, c'est pas donné à tout le monde.
Non, bien sûr.
C'est pas donné à tout le monde. Mais il faut savoir se dire, c'est bon, bébé va bien maintenant. Allez, chut, tout le reste, j'oublie. Maintenant, il y a bébé qui est là et c'est ça qui compte. Et pas se poser 1000 questions. Parce que sinon, des questions enclenchent d'autres questions. Et au fond, on n'écoute pas la réponse et on pense que eh ben, là aussi, ça va mal se passer, je ne vais pas y arriver.
Alors qu'en fait, il y a ce côté de remise en question de et si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, et si j'étais allée plus tôt, plus tard, si j'avais pas mangé tel truc avant. Enfin voilà, on va se poser des tonnes de questions.
Ah mais ça va chercher loin, même pour l'allaitement. Parce que je reviens un peu là-dessus. Je vois parfois des mamans qui accouchent pour leur deuxième et qui me disent « Docteur, j'aimerais bien allaiter, mais vous comprenez, j'ai pas allaité pour le premier, alors je veux pas qu'il y ait d'injustice. »
Ah, entre les deux. Ah,
entre
c'est dingue,
les deux.
Ouais.
Vous vous rendez compte ?
Ouais, alors que en fait,
alors
non.
Que, ben non. Ouais. Et pourquoi ça n'avait pas allaité le premier ? Ah ben, je voulais pas, ou parce qu'on m'avait dit « tu vas te fatiguer », bon, ça c'est des remarques à deux balles qu'on entend dans l'entourage, ou parce que peut-être l'allaitement s'était pas bien passé, il y avait eu un engorgement ou que sais-je, un premier enfant. En fait, c'est ça. C'est cette notion de stress qu'il faut travailler. Il faut savoir se déstresser, en particulier pour un premier, et se souvenir qu'un accouchement, et après l'alimentation de bébé, que ce soit avec un biberon, que ce soit au sein, c'est quelque chose de complètement naturel, et il faut faire confiance à son nouveau-né. Et pas se poser 36 000 questions. Sinon, ce stress-là, on le transmet au bébé, il va avoir des pleurs intempestifs, on va avoir du mal à le calmer. Donc, comme il pleure, on pense qu'il a faim, on lui donne à manger, mais il va prendre le biberon ou le sein, parce qu'il va fabriquer des endorphines, l'hormone du bien-être, de l'apaisement, mais pas parce qu'il a faim. Du coup, ça va rajouter à son problème, il va être en digestion continue, il va avoir des gaz, il va repleurer au bout d'une heure, et c'est la spirale infernale. Cool, tranquille, zen, la zénitude.
Et c'est vrai que moi, c'est un truc par rapport à ça, au rythme et ce que je trouve intéressant quand je discute avec des professionnels de santé, c'est qu'ils me disent, ça c'est la base. Par exemple, je vous parle de la dilatation du col, mais on m'a dit c'est 1 cm toutes les heures. Mais on m'a tout de suite dit derrière, ça c'est une
la
moyenne,
théorie.
C'est la théorie.
Voilà.
En soi, c'est pas du tout vrai, enfin c'est pas du tout vrai pour tout le monde, et comme l'avez dit, chaque accouchement est complètement différent. Et je pense que c'est pareil pour bébé, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être très à l'écoute, mais ne pas trop stresser, surstresser non plus, en se disant s'il n'a pas mangé. Et il y a une remarque que vous m'aviez faite il y a quelques temps, c'était il n'y a pas d'enfants, de bébés, en France en tout cas, qui sont morts de faim.
Oui.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Voilà.
Je n'ai jamais vu un nouveau-né qui meurt de faim. Alors, bien sûr, je ne parle pas d'un grand prématuré fait 1,2 kg à la naissance. Là, c'est autre chose.
Bien sûr, on parle
pas de ça. Mais un bébé qui naît, qui a à la naissance, c'est bien passé, ou même s'il y a eu une ventouse, une césarienne, tout ça, qui a eu les premières heures un peu compliquées, puis après, c'est bon, il est sur les rails, on oublie le reste. tout va bien se passer et le bébé, on lui fait confiance, c'est lui qui va dire quand il a faim. Et si c'est la tétée, le sein, eh bien, on va le mettre quand il réclame pour que la stimulation se fasse bien et que la montée de lait se fasse bien. Et puis après, peu à peu, les tétées vont s'espacer. Là aussi, on écoute son enfant et puis surtout, on apprend à découvrir s'il pleure parce qu'il a faim ou juste parce qu'il a envie d'être pris dans les bras.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'il faut apprendre à décrypter pour avoir la réponse adaptée et pour ne pas arriver, quand il aura 4 ou 5 mois, à être au bout de sa vie et à dire « Bah, docteur, c'est un cauchemar, je ne dors plus, il ne s'endort que dans mes bras, donc il dort tout le temps dans mes bras. » Il y a des mamans auxquelles ça peut arriver parce qu'elles ont eu peur, elles ont transmis peut-être quelque chose, mais il n'y a que dans mes bras qu'il va s'endormir. Sous-entendu, ben, je suis sa maman,
oui,
donc il n'y a que moi qui peux l'apaiser.
Ouais,
mais oui, c'est merveilleux.
Ouais.
Mais en même temps, l'objectif, c'est aussi de pas en faire trop, parce que sinon, après, on peut être rattrapé par la fatigue, par les rythmes de sommeil, et être un peu au bout de sa vie.
Oui.
C'est faut trouver un équilibre entre les deux. Et ça se fait naturellement.
Et ça se fait naturellement. Mais c'est vrai que je pense que de se mettre des rythmes et en fait, il faut s'écouter, il faut voir les choses. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas accouché, donc je ne sais pas en fait comment ça va être. Mais c'est vrai que je fais un travail là-dessus, de me dire rester à l'écoute et surtout ne pas stresser, à se dire il faudra faire comme ci, comme ça, etc. quoi.
Ah ben de toute façon, on va refaire un podcast quand vous aurez accouché.
Oui.
Et ça vous n'allez pas y louper.
Mais
non. Et alors on va voir les cases à cocher.
Voilà,
alors, vous allez me dire, ouais, docteur, rien du tout, ça s'est pas du tout passé comme vous m'avez dit.
Mais
ça a été un cauchemar. Non, mais ça va bien se passer.
Pas un cauchemar, mais je pense que ça va pas se passer.
Oui.
En tout cas, comme je l'imagine de temps en temps. Et c'est vrai que la seule chose que je me dis, c'est surtout de pas tomber dans ce stress et d'essayer de prendre du recul comme on pourrait le faire dans n'importe quelle situation qui n'est pas avec un bébé. C'est-à-dire vraiment de faire 2 pas en arrière et de se dire, ok, est-ce que c'est normal que je stresse autant? Il faut pas que je transmette ce stress-là. Et du coup, pour avoir un bébé ultra stressé derrière, quoi.
Oui, parce que le bébé, on peut le stresser.
Ouais.
On peut le stresser si on est inquiet, si on ne se pose pas les bonnes questions, et puis si on est fatigué, parce que la fatigue, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que si à un moment donné, on se sent fatigué une fois qu'on est rentré à la maison, et qu'on peut être seul aussi à la maison, parce que le compagnon, la compagne n'est pas forcément là, peut-être parti au travail, ou on n'a pas de la famille qui est proche, on n'ose pas demander, et puis parfois, on peut craquer, parce que les pleurs... Il faut une chose que je veux rappeler, c'est que le pleur d'un bébé est extrêmement strident. Pourquoi ? Parce que le bébé, et c'est pour ça que j'ai fait un podcast sur le premier cri, le cri, c'est la vie chez le bébé, il a besoin qu'on l'entende même à travers un mur en béton.
Oui, c'est ça.
Et vous pouvez mettre un mur en béton, s'il y a un bébé qui pleure de l'autre côté, vous l'entendrez.
Oui.
Parce que le cri est extrêmement strident. Pourquoi ? Parce qu'il est dépendant à 100% le bébé. Contrairement à une brebis qui va aller prendre le sein de la mamelle, un bébé humain est dépendant à 100%. Si on le met pas au sein ou qu'on lui donne pas le biberon, il va mourir de faim.
Ouais.
Donc il faut écouter ce cri, mais en même temps, il faut pas que ce cri soit anxiogène.
Oui.
Parce qu'un bébé, c'est 0 ou tout de suite 10. C'est-à-dire, soit il pleure pas, il est calme, soit il pleure, c'est tout de suite très intense. Et ça peut stresser. Et en fait, il va s'arrêter aussitôt, dès qu'on va lui mettre le petit doigt dans la bouche, il va tétouiller un peu, qu'on va lui donner le sein, qu'on va donner le biberon, qu'on va le porter, qu'on va aller se promener, qu'on va donner une réponse adaptée. Au fond, ce dont il a besoin, c'est de s'apaiser.
Oui, c'est ça.
Il était en mouvement dans le ventre de sa maman, il était dans un milieu liquide. C'est quand même pas rien, cette révolution. Il se retrouve du jour au lendemain dans un environnement aérien. Il y a des bruits qu'il ne connaît pas, des bruits agressifs.
Oui, c'est ça, dans une maison.
Il y a des choses qui tombent par terre, une porte qui claque, peut-être une radio un peu plus loin, de la musique. Mais c'est phénoménal pour lui, tout ce qu'il est en train d'intégrer. Ça peut l'exciter trop, ça peut le fatiguer. C'est pour ça qu'il faut un environnement calme pour un bébé, c'est important. C'est pour ça que emmener un bébé de 15 jours au resto, c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux le faire garder parce que il a une ouïe qui est très développée et les bruits qui ne sont pas encore identifiés peuvent ensuite impacter son sommeil et par conséquent ses rythmes de tétée ou pour manger.
Donc vaut mieux être sur ce côté très calme, tranquille.
Tranquille.
Ouais. Pour pas le stresser. Ben merci, docteur Fersdorf, pour ces conseils. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Eh ben, c'était un plaisir. À la semaine prochaine, Annabelle. Et si vous souhaitez entendre tous mes podcasts sur tous ces sujets passionnants, eh ben, n'hésitez pas, vous allez sur pédiatre-online.fr. À tout bientôt.